Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde. Épisode du mois de juillet, début juillet, où on va parler de plein de nouvelles versions qui passent en version 7. Je pense à TypeScript, à Astro, il y a Babel. On va parler de Babel, on va parler d'un nouveau moteur de Markdown. On va aussi passer sur Vercel qui a une nouvelle fonctionnalité qui découvre enfin la version Docker et Docker Files. Desktop Deno qui revient avec une solution pour faire des applications desktop. Vercel encore avec son agent, son framework pour les agents. C'est un peu comme les frameworks JavaScript. En ce moment, ça pop partout et tout le temps. Et enfin, des modèles IA open source, plutôt sympa, et des services français IA. On attaque tout de suite. Vous êtes sur Double Slash, le podcast des développeurs. On attaque tout de suite, Patrick.
Oui, on attaque tout de suite. Attends, avant de commencer, on va quand même remercier les sponsors qui nous aident tous les mois, voilà, avec un petit don. Donc, merci à eux.
Voilà. Un grand merci à tout le monde. Exactement. Allez, on attaque. Yes. Petit ras-le-bol d'une personne qui a pour objectif en fait de maintenir des librairies open source. On l'avait déjà dit, ça explose totalement. Il croule sous le nombre de pull requests. Sauf que en fait, malheureusement, parfois en fait, il se rend compte que des personnes soumettent des pull requests, mais ne prennent même pas le temps de relire le code. Donc, il a fait quelque chose d'assez malicieux pour voir si il y avait un peu du foutage de gueule dans l'histoire.
Ouais, il a en fait donc c'est le créateur de HashiCorp en fait, Mitchell. Et en fait son truc c'est qu'il a mis des dans agent 1.md et dans certains commentaires de code en fait, il a mis des prompts d'injection. Donc pour dire au modèle, à l'agent de faire des trucs un peu débiles, style rajouter un fichier TXT en disant je suis un gros idiot, tu vois, un truc comme ça. Et donc en fait, c'est histoire de voir que la personne n'a pas relu le code et voilà, fait une review de son code. Puisqu'il l'a pas envelé sous ces trucs un peu débiles. Du coup, ce que ça lui permet, c'est de détecter en fait que la personne n'a pas relu, et du coup, il bannit immédiatement la PR et le compte de la personne. Comme ça, il peut plus soumettre de PR. C'est assez efficace, quoi.
C'est violent, voilà. Mais ça marche plutôt bien, et c'est assez malin, ouais. En même temps.
Ouais, donc, c'est malin. Après, tout le monde n'est pas d'accord, mais bon, c'est une façon de faire, parce que c'est vrai que les projets open source sont assez ils n'arrêtent pas de recevoir des PR dans tous les sens, voilà, qui sont abandonnés par la personne qui l'a posé immédiatement, quasiment. Donc ils ont beaucoup de travail de relecture, tout ça. Donc ça commence à les embêter beaucoup. Donc ils essaient de trouver des solutions, quoi.
Moi, je trouve ça assez radical, mais je trouve ça plutôt bien et marrant en plus. Version 7 de TypeScript, on le disait en introduction, ça sort en version en Relate Candidate, donc autant dire on est proche de la sortie finale et définitive de cette version 7. Il n'y a pas de grande révolution majeure quand même.
Bah, c'est la recréation, en fait c'est le portage en Go du moteur TypeScript. Voilà, on est quasiment OK. Il est 10 fois plus rapide que la version 6 qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc ultra rapide, on gagne vraiment beaucoup en vitesse. Et à savoir aussi qu'ils ont intégré dans VS Code, j'ai lu un autre article où ils l'intégraient dans VS Code, donc ça veut dire que c'est en VS Code aussi, ça va tourner beaucoup plus vite. Bon, après, ils avaient expliqué pourquoi Go, pourquoi pas Rust, etc. Donc, on va pas revenir là-dessus. Mais après, il y a d'autres versions de compilateurs TypeScript en Rust, qui, voilà, en dehors de ce projet-là, qui existent, si jamais vous voulez essayer. Mais bon, apparemment, c'est, voilà, en Go, c'est un choix qu'ils ont fait par rapport à la mémoire, etc. Donc, voilà. Donc ça devrait arriver d'ici peut-être septembre, enfin fin de l'été, je crois, ou peut-être avant.
À la rentrée, on va dire.
Ouais, à la rentrée, ouais.
Ok, toujours dans cette version 7, parce que je ne sais pas pourquoi, mais coïncidence du calendrier, on va dire, version 7, c'est, mais cette fois-ci pour Astro, qui est le moteur de site classique statique, mais aujourd'hui bien plus que ça, bien plus puissant. Tout l'écosystème s'est bien fourni. Et aujourd'hui, il revient avec une version 7, performance, IA, Qu'est-ce qu'il y a de plus?
Ouais, beaucoup de performances. Ils annoncent jusqu'à 61% plus rapide. Alors 61 justement pour cent plus rapide pour la compilation grâce à Rust. Et, ils ont intégré Astro. Qu'est-ce que je raconte? Astro Avit 8, la dernière version qui est sortie il y a pas longtemps avec le bundler Rolldown justement. Donc encore plus vite. Il y a aussi un truc qu'on va discuter juste après, mais ils ont. Alors ça s'appelle Satori. C'est un nouveau moteur de Markdown, donc qui est pareil, c'est pareil sur Rust et qui est ultra rapide. Donc voilà, tout est plus rapide, c'est de la folie. Donc c'est-à-dire que t'as à peine appuyé sur npm run build que c'est déjà buildé. Voilà, ça va trop vite. Et sinon, il y a quelques fonctionnalités comme tu peux contrôler finement en fait les requêtes. Ils ont rajouté un système pour vraiment contrôler les requêtes du site vraiment très très finement. Il y a du cache de route pour les CDN, Netlify, tout ça, Vercel. Et au niveau IA, ils ont amélioré aussi le serveur de développement qui sort des logs JSON pour que l'agent de codage en fait il puisse lire plus facilement les logs, tout ça.
Eh, ça, c'est
Savoir ce qui se passe
malin.
au niveau de. Ouais, c'est pas con.
Ça, c'est vraiment malin d'avoir vraiment des fichiers de log en mode dev
Ouais.
assez poussés et assez explicites pour donner de la matière aux agents pour pouvoir justement mieux débugger. Très, 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 très,
Éviter
très,
de faire des
très malin.
copier-coller.
Exactement. Très, très malin. Cool, ça. Cool.
Ouais.
Et donc, tu le présentais tout à l'heure, Satori ou Sauteri, je ne sais pas comment on le prononce, c'est le moteur de Markdown qui, lui, est totalement nouveau ou c'est incubé chez eux, c'est un projet
Non, je sais pas
externe.
si non, je crois pas que ce soit lié vraiment à Astro. Non, il me semble pas. Ouais, je crois que c'est tout nouveau, ça c'est clair. Et il est écrit en Rust, donc il est ultra rapide. Alors ils annoncent 8 700 documents par seconde possible de compiler, donc c'est vraiment très très rapide. Il y a des plugins, il est compatible avec AMDX, enfin tous les trucs un peu personnalisés. Donc peut-être qu'il va être étendu sur d'autres frameworks, c'est possible, hein, on verra. Mais ouais, il est très rapide. Et t'as le playground qui est, si tu tapes un truc, c'est immédiatement converti. Enfin, c'est ultra fast et franchement, c'est voilà, c'est top. Et apparemment, il fonctionne aussi dans le navigateur. Bah d'ailleurs, c'est possible que là, la version playground fonctionne dans le navigateur avec Wasm, dans le fond.
Merci Wasm. Ouais, excellent. Excellent. Et on peut extraire soit en mode JSON, soit en mode rendu, soit en mode HTML. Très intéressant. Top. Top, top.
Ouais, c'est pas bon.
On en parlait tout à l'heure en off, en préparation de l'épisode. Cursor qui vient avec son application iOS pour piloter ses agents depuis son ordi, depuis le cloud. Et ironiquement, on disait enfin.
Ouais, enfin, c'est clair parce qu'ils ont quasiment, enfin, tous les Claude Code et compagnie, Codex et tout ça. Enfin, je vais pas tous les citer, mais ils ont déjà tous leur système de remote en fait, voilà, sur le téléphone et depuis longtemps. Et donc, Cursor est un petit peu en retrait par rapport à ça. Et enfin, ils ont sorti une application qui permet, pendant que tu n'es pas derrière ton ordi, tu peux contrôler des agents. Alors, moi, je pensais que c'était que les. Alors, j'ai les Il est sorti hier et j'ai téléchargé, mais j'ai pas encore branché tout ça parce que j'ai aussi Cursor sur l'ordi. Moi, je pensais que c'était que les agents cloud. Et tu me dis que ça marche aussi en local, donc j'ai dû louper un truc. Mais tu peux nous raconter un peu, toi, tu l'as utilisé hier dans la
Ah
voiture,
ouais,
c'est ça?
totalement. Mais c'était en fait j'ai fait un long trajet, traversé la France en bagnole, côté passager. Et il y a ça qui sort. Je me chauffe. Je me dis ok, bah pourquoi pas. Pourquoi pas ne pas profiter de ce temps en fait de voiture, pour se forcer en fait à ne pas utiliser l'ordi et tout faire en mode agentique. Et s'en est suivi une grande conversation, un grand monologue. Toujours même système, hein, plan, j'itère, je regarde, je modifie jusqu'à temps que ça m'aille correctement. Et derrière, je lance la production. J'ai passé plus de temps à bien configurer mes variables d'environnement
Ouais.
En fait, c'est là où ça merdait. En fait, c'était mes variables d'environnement qui n'étaient pas bien configuré et au téléphone c'était un peu la merde à gérer mais le code par lui-même était plus que correct, était juste et bien structuré. c'est assez bluffant. Et on a vraiment une puissance. Moi, je n'avais jamais expérimenté Claude Code avec un agent sur le téléphone. Mmh. Et en fait, l'avoir cette expérience de continuité téléphone, ordi, et tu passes de l'un à l'autre assez facilement, assez rapidement, et d'avoir plus le langage oral, même si je l'utilise déjà, mmh. le langage oral quand je suis derrière mon ordi, pour prompter mes agents. Là, mmh. d'être sur le téléphone et de tout lancer sur le cloud, ouais, c'est ça, c'est quand même vas-y, super parce sympa.
Parce que du coup, dans la voiture, tu étais en vocal, tu donnais les prompts tout, en parlant.
Tout.
Non, mais
tout,
je pense
tout,
à.
Tout en.
Je
tout.
Pense à la personne qui était à côté de toi qui devait se dire, mais c'est quoi ce truc
bien sûr, bien, absolument. C'est... Et en plus, c'était un langage absolument incompréhensible pour elle parce que, bah, en fait, c'est un langage ultra spécifique. Donc, oui, tu viens analyser le SDK que je t'ai donné, tu vas faire du reverse engineering, tu vas créer tous les endpoints spécifiques. Enfin, voilà, il y avait vraiment tout le vocabulaire qui allait bien. Mais derrière, en fait, j'ai fait un micro-clone d'un service de web notification. Voilà, je peux envoyer à une personne, je peux envoyer à différentes personnes qui se sont abonnées sur des intérêts. Ça marche sur les PWA, ça marche... top, c'est vraiment top, ça marche, c'est viable, et j'ai pas poussé le truc jusqu'à faire du multitenante, mais pour mon usage, j'ai encapsulé tout ça dans un module Nuxt, franchement, extraordinaire, l'expérience est ouf.
Alors, ouais, alors pour revenir au curseur iOS, il parle d'une réduction de 75% de consommation de tokens. J'ai pas compris ça, j'ai pas lu exactement, mais c'est quoi? C'est une remise qu'ils font sur les modèles ou c'est
Exactement. En fait, toutes les commandes en fait qui sont envoyées depuis l'agent, en fait depuis le client iOS, en fait, ouais. Tous les tokens et sous couvert que tu utilises leur modèle. Soit Composer 2.5, en fait, ouais. la consommation de token est diminuée de 75%. En clair, tu ne payes que 25% de tes tokens si tu as initié, ou en tout cas, ouais, initié la commande via ton appli iOS, tout simplement.
Ah bah, je sens qu'aujourd'hui, j'ai travaillé avec le téléphone. Derrière ordi, j'ai parlé au téléphone.
Et c'est pour ça, en fait, que quand j'étais dans ma bagnole, en fait, OK, je vais tout faire au téléphone. Déjà, un, j'ai un forfait généreux. Et, deux, en plus, c'est méga les soldes sur les tokens. Et bah, vas-y, on va pousser l'expérience jusqu'au bout de relecture, d'affinage, de bug, de tout ça. Vas-y, on continue. Bam, 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 bam. Et, okay. et à la fin, on a un truc plutôt viable et portable. Mm. Donc, non, c'était, okay. c'était cool. C'était très intéressant à construire et plutôt sympa, quoi.
Ouais. Au passage, ouais. Alors, en ce moment, j'utilise aussi Cursor, entre autres, Codex aussi. Bon, bref, plusieurs. D'ailleurs, on fera peut-être un épisode un jour pour parler un peu de tous ces trucs-là.
Oui.
Ouais, Composer 2.5, là, il est vraiment pas mal du tout. Le 3 devrait pas tarder à arriver, a priori. Mais déjà, il est très, très bon dans l'ensemble. Et puis, dernièrement, ils ont rajouté GLM 5.2, qui est disponible aussi. Donc, il y a une semaine,
pas vu.
Je crois.
J'avais pas vu.
Ouais, t'as pas vu l'email.
J'ai pas vu l'email. Ouais, non, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Ah, top. Je testerai. Même si 2.5, c'est quand même là où il y a le meilleur ratio prix, usage, qualité rendu. Donc. On va faire un épisode sur tout cet écosystème, les harnais pour nous développeurs. Je pense que ça vaut quand même le coup. Allez, on déroule. Autre effet. Enfin, ça arrive.
Ah bon, Docker, ça marchait pas.
Dockerfiles qui s'invite chez Vercel. Vercel qui historiquement en fait faisait vraiment des fonctions serverless as a service, on déployait la fonction, ça venait exécuter la fonction. Maintenant, c'est devenu une plateforme bien plus gargantuesque, on va dire. Ça fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ils viennent rajouter une nouvelle flèche, alors en tout cas, ouais, un nouvel outil à leur boîte qui est la gestion des Dockerfiles.
Ouais, par contre, Dockerfiles.versel, c'est voilà, faut quand même un truc particulier. Mais oui, enfin, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, je me dis, bah du coup, ça sert à quoi d'utiliser Versel si, si tu fais du Docker, bah va directement chez Amazon ou je sais pas. Donc bon.
Ouais.
Ah, peut-être tu vas me dire s'il y a vraiment une utilité. Mais, non.
Ouais. Alors méchant, en fait, il y a un couplage. Il y a un couplage que tu n'as peut-être pas vu, mais un truc qui est intéressant où en fait. Tu vas pouvoir spécifier en fait dans ton versel.json, dans à la racine de ton repo, surtout pour les monorepos en mode back-end, front-end, et ben en fait tu vas pouvoir instancier les deux et déployer les deux en même temps et spécifier que ce repo c'est le back-end, ce repo c'est le front-end. Et en fait l'avantage de faire ça, c'est que en gérant le Dockerfiles, bah en fait ils vont dire ouais bah en fait on a un microservice et bah en fait le microservice on va l'intégrer et tu vas pouvoir tout self-hoster chez Versel. Par exemple, tu as ton front chez Versel, mais ton back il est sur un Kubernetes ou je sais pas quoi sur Amazon, et bah pour éviter d'avoir deux opérateurs, tu vas pouvoir tout centraliser chez Versel. Donc en fait, le move il est malin, c'est tu as ton front chez Versel, bah potentiellement, demain, tu vas aussi pouvoir mettre ton back et tu vas pouvoir faire autre chose et coupler et surtout tout intégrer depuis ton monorepo, depuis ton projet, déployer tes multi-instances. Ouais. Quoi, tu vois. Donc, stratégiquement, oui. c'est pas stupide. C'est une suite logique, tu vois. Et est-ce que ça sera l'usage premier? Non, je pense pas.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu cette news aussi en même temps de multi-projets sur le même truc. Ouais. J'ai vu ça aussi passer en même temps. Ils ont quasiment sorti ça en même temps. Ouais, effectivement. Ouais.
Mais il y a la Versel Ship, l'espèce de conférence. Et donc, ils ont annoncé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. L'un, en fait, pour moi, est couplé avec l'autre parce que ça prend sens, quoi. Ça prend sens s'il y a les deux. Sinon, les gars, vous avez juste un peu de retard pour une plateforme d'hébergement gérée Docker. Wow.
Ouais, c'est surtout que c'est. Je rappelle que Versel, c'est juste un wrapper d'Amazon, quoi. Enfin, voilà, c'est juste une interface qui permet de gérer des serveurs Amazon. Ah, tu vas me dire, c'est la belle interface, etc. Je suis pas fan de
ouais, ouais, je sais. Je sais. sur plein de trucs, moi, je trouve ça quand même vachement bien, vachement rapide.
Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est cher payé. Quand même.
Sur des petits projets, franchement, c'est pas si cher payé, quoi. Tu vois, moi j'ai un compte pro chez eux pour avoir plus de compute. J'ai des clients qui payent, je leur refacture grassement l'hébergement et tout le système, et moi ça me coûte que dalle, tu vois. Franchement, je me fais pas chier, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas d'accord. On n'est pas
non,
d'accord.
Non, moi, j'ai déjà eu des. J'en avais parlé il y a très longtemps. On avait déjà eu des problèmes sur. On était hébergé chez Versel pour des projets Next.js pour un client. Du jour au lendemain, ça a coupé pour des raisons de proxy, machin, que je sais pas quoi. Et impossible d'avoir quelqu'un chez eux. Aucun service client. Et quand on leur a demandé comment on pouvait avoir un service client, combien ça coûtait, c'était 3000 ou 4000 balles, quoi, donc, par mois. Donc tu dis, bah, ok, bah, on va aller ailleurs, hein, merci, au revoir.
Ouais, voilà. Ouais. Mais après, il faut admettre que tu es tout seul. Tu vois, que
voilà,
que
c'est ça, tu es tout seul.
Que tu as un service, mais mine de rien, tu as quand même un service plutôt correct à un prix dérisoire. Donc, tu vois, enfin, tu fais. T'as un système, tu peux mettre un système de pipe de déploiement avec des CDN, t'as des bases de données quasiment gratos si t'as des tout petits volumes.
Disons que si l'interface d'Amazon était pas aussi pourrie, ces services-là n'existeraient pas. Voilà.
Ouais.
Si Amazon avait une interface type Versel, tout ça, machin, facile à utiliser, tout ça, bah, tous ces services n'existeraient pas.
Oui.
Mais bon, apparemment, Amazon, ils s'en foutent. De toute façon, ils gagnent de l'argent. Donc, ils n'ont pas besoin d'améliorer l'interface.
Bien sûr. Et à la fin, eux, ils sont en dessous ou au-dessus. T'appelles, tu vois ça comme tu veux. Mais ils gèrent. De toute façon, à la fin, ça va quand même chez Google, Amazon ou Azure. Donc, ils s'en foutent, quoi. C'est pas grave. Et surtout, ils ont créé tellement une barrière à l'entrée parce que tous les mecs qui ont passé des certifications Amazon, ils ont implémenté Amazon. Quand McDonald's fait une migration sur Amazon, ils vont pas sortir demain, quoi. Donc, au final, ils sont captifs et c'est comme ça que Amazon garde une rétention de ma boule. Donc, Vercel, son positionnement, c'était c'est pas les grosses boîtes et les grosses infrastructures. Mais c'est l'ergonomie, c'est la simplicité d'usage, et c'est tout ça.
Ouais.
Et ils font le taf quand même. Ils font le taf quand même. Mais je sais que t'es pas copain avec Vercel. Je sais.
Ouais.
Allez, desktop, Deno qui revient avec une nouvelle fonctionnalité, Deno desktop app, ouais. Qui nous permet, si j'ai bien compris. On écrit notre code Deno et on l'exporte en mode desktop et ça nous fait un binaire qu'on peut utiliser dans n'importe quelle application. Donc, ça vient clairement jouer sur les plates-bandes de Tori, Electron, Electrobun ou les choses comme ça, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est une commande qui te permet de compiler le truc sur un binaire et après, tu peux l'ouvrir comme une application desktop. Alors, c'est une web view. Voilà, j'ai pas tout lu total, mais ça prend énormément de framework en compte, enfin quasiment tous d'ailleurs. Et du coup, ça te fait un binaire, tout ça marche, c'est hyper simple. Tu vois, la doc, même la page, elle est hyper courte parce qu'en fait, c'est tellement simple qu'il n'y a rien à faire.
Ouais. Ouais. C'est déconcertant de simplicité à voir si à l'usage ça marche plutôt bien. Et on se rappelle les notions de performance que pouvait avoir Electron parfois sur des fuites de RAM ou des choses comme ça, ça consommait extrêmement.
Ouais.
Est-ce que c'est viable sur des projets d'envergure où on veut faire une micro-app? Ok, c'est viable, mais dès qu'on veut faire une application un petit peu plus conséquente, ça risque d'être un peu plus compliqué, non?
Là, on est vraiment sur... T'as fait une web app intranet d'un truc. Bah, au lieu de l'avoir sur le navigateur, tu la compiles et les gens, ils vont ouvrir directement l'application sur leur ordi. Et puis voilà, quoi. C'est l'usage, quoi. Parce que c'est même pas version. Et c'est pas mobile ou quoi que ce soit, c'est vraiment desktop. Donc c'est vraiment... J'ouvre mon application intranet directement sans passer par le navigateur. Et puis voilà.
Ok.
Et du coup, ça se fait en une ligne de code, quoi. Enfin, une ligne de console. Donc voilà. C'est hyper simple.
Yes. Autre renaissance, j'allais dire, mais en fait, non, ce n'est pas une renaissance parce qu'il n'est jamais mort. C'est le projet Babel qui aujourd'hui vient avec une version 8. Et en fait, moi, je croyais que Babel était un peu mort, mais en fait, pas du tout.
Ben non, pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai vu cette news. Et j'ai dit waouh. Non, Babel, fondement du web JavaScript en fait. Hein, c'est vraiment le compilateur qu'on a tous utilisé. Enfin, ceux qui sont là depuis un petit moment, qui nous permettait de compiler le code dans des versions compatibles. Donc ES5, tout ça, machin. Voilà. D'ailleurs, il drop ES5. C'est un petit peu vieux maintenant. Alors hop, ça dégage. Mais voilà, version 8 qui sort, ESM only, plus de ES5, voilà, etc. Je rappelle que le compilateur React est sur Babel. Donc comme quoi. C'est encore une technologie viable. Et surtout, ils ont, donc c'est, en plus de cet article pour expliquer qu'ils sortent la version 8, ils ont expliqué qu'en fait, si tu descends un petit peu, qu'ils sont encore énormément téléchargés. Ils donnent des chiffres, je ne sais plus où dans le truc. ça va être pareil. Et surtout, ils ont des problèmes d'argent, plus ou moins. Ah. Voilà. En fait, ils ont les donations, tout ça, qui sont en baisse énorme. En fait, tu vois, là, on a un graphique où ils avaient beaucoup, 2020, 2021, beaucoup d'argent. Et là, 2026, ça s'est totalement effondré. Donc, voilà, ça met peut-être en péril aussi le projet. Donc, voilà. Mais Babel existe toujours. Et souvent, on ne sait pas trop qu'on l'utilise parce que, voilà, on voit que c'est de plus en plus téléchargé, en fait. Tu vois, de 2020 à 2026, c'est en explosion complète. Donc, 588. Ça, c'est par jour, je crois, en plus, hein, il me semble.
Et est-ce que c'est pas non, c'est monthly, c'est par mois. C'est 588 millions de téléchargements par mois. Est-ce que aussi il n'y a pas un effet agent? Parce que tu vois, novembre 2025, on voit une explosion, ça commence à monter de manière assez significative. Est-ce que il n'y a pas les agents qui se forcent et utilisent volontairement en fait une sorte de transpile, tu vois, de rétrocompatibilité? Je sais pas, je me pose la question, parce que comment on peut justifier l'explosion en novembre 2025, si tu veux, à part l'explosion du dev agentique? Je sais pas. Peut-être que je fais des corrélations qui
Bah déjà, je pense bizarre. Que Babel est dans des dépendances dans des dépendances cachées que tu l'installes pas forcément, mais il peut être utilisé dans ton projet. Après, il y a, est-ce que le compilateur React a joué là-dessus aussi, parce qu'il est sorti à peu près à cette période, il me semble. Donc ça peut aussi faire que les gens se remis à utiliser Babel potentiellement, mais voilà, c'est un
de manière indirecte peut-être.
Ouais, de manière indirecte, ou obligé de l'installer pour pouvoir mettre le compilateur. Donc ouais, c'est possible que ça joue aussi beaucoup. Mais voilà, le projet existe toujours. Alors ça faisait 8 ans qu'il n'y avait pas eu de release, quand même.
Ah, ça fait quand même, ça fait.
Ouais. C'est... Voilà. D'où, il n'y a pas de version majeure depuis 8 ans.
Et d'où ma surprise quand tu dis une nouvelle version. Bon, waouh.
Alors pour les personnes, les développeurs, les développeuses qui nous écoutent, qui n'ont jamais qui sont là depuis pas très longtemps, tu vois. À une époque, on utilisait beaucoup Babel. On avait Webpack et Babel faisait plutôt plus ou moins partie de Webpack pour la compilation. C'était un des outils, voilà, et ça nous transpilait le code, voilà, que ce soit du React ou n'importe quoi. Donc c'est un outil qui fait vraiment partie du paysage JavaScript depuis très longtemps. Et voilà, c'est juste pour l'info, tu vois, ceux qui sont là que depuis 2021-2022.
N'oublions pas, il y a toujours eu une legacy et il y aura toujours une legacy.
Ouais.
Allez, là, on n'est pas sur de la legacy, on revient chez Vercel qui nous présente un framework de dev agent. D'agent, quoi. Un framework pour créer son propre agent. Ça s'appelle Eevee. Je ne sais pas si on dit Eevee ou Eve. En tout cas, à la française, c'est E-V-E. Donc, on va dire Eve. Mais c'est, même si ça fleurit un peu partout en ce moment, là, en fait, c'est une solution open source qui a pour but de donner un environnement de travail à son agent pour justement construire, run et on va dire passer à l'échelle les agents.
Ouais. Bon, alors c'est vrai que les frameworks d'agents en ce moment ça pop dans tous les sens. On est à la période framework JavaScript de 2015-2018, tu vois, à peu près. Donc ça arrive dans tous les sens. Alors je rappelle qu'il y avait eu, tu m'en as parlé tout à l'heure, Flux, qui avait été créé par l'équipe, d'Astro, qui, Astro, je rappelle, fait partie de Cloudflare. Voilà. Donc, du coup, Flux est plutôt lié à Cloudflare. Donc, sachant que Vercel et Cloudflare, c'est un petit peu la guerre. La réponse de Vercel, c'est ce nouveau framework. Framework Eve, qui a été construit un peu à l'image de Next. Next fait partie de Vercel aussi, je rappelle, de Next. Et du coup, c'est un système de fichiers, comme Next. C'est-à-dire, tu as des dossiers, tu mets des fichiers à des endroits, des fichiers TypeScript à d'autres, et ça te fait ton agent, en fait. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était très, très lié à Vercel pour l'instant. En tout cas, tu peux le déployer facilement sur Vercel. Donc ça m'embête un peu, parce que c'est open source, oui, mais c'est lié quand même à Vercel. Donc tu peux pas le déployer ailleurs, il me semble. Après, peut-être je dis une connerie, mais il me semble que vraiment tu peux pas le déployer ailleurs pour l'instant. Puis voilà, donc bon, alors, d'après les gens qui l'ont essayé, c'est super cool parce que c'est super simple à mettre en place. Tu fais des fichiers Markdown, des fichiers TypeScript avec des fonctions, etc. Et voilà, tu crées un agent qui va te faire ce que tu veux. Donc c'est pas mal.
C'est plutôt pas mal quand même. Hein. C'est plutôt pas mal. Après, à voir comment ça évolue, quelle est la l'usage et surtout la manière dont c'est fait. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est facile à faire évoluer? Est-ce qu'on est emprisonné chez Vercel ou pas? Après, je viens de voir que ça utilise Workflow.
Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Et toi, t'es un grand fan de Workflow.
Exactement, je suis gros fan de Workflow. Par contre, pour déployer son Workflow hors Vercel, il faut construire son world, ce qu'ils appellent un world. Ça, en fait, tu peux l'utiliser soit en Redis, soit en Postgre. Et pour le coup, j'ai testé les deux. J'ai pas testé sur Vercel. Ouais. Mais j'ai créé mon propre world en Postgre et en Redis et ça marche plutôt bien. Je ferai un retour d'expérience.
C'est compliqué ou pas?
Non,
compliqué ou pas? Non, ça va, c'est faisable.
C'est hyper simple et vraiment, c'est la beauté du geste, c'est vraiment sur l'exécution progressive, tout. Mais on pourra faire un retour d'expérience sur un petit épisode.
Mais du coup, tu as fait en dehors de Vercel, mais avec le framework. D'accord, donc c'est faisable. Okay.
Ouais.
Ok, intéressant. Ouais, faut qu'on fasse un épisode pour parler de ça, ouais, carrément.
Mais en tout cas, là, Eve, j'ai vraiment envie de le tester pour faire des petits agents, surtout un agent de traitement de post-production podcast. Exactement, pour éviter d'y passer des heures. Je pense qu'il y a moyen d'automatiser beaucoup de choses et donc je voudrais en fait le faire passer dans un agent qui tourne pour le coup qu'en local et puis et voilà. Donc moi je vais tester.
Après, même en remote, hein, ça coûte. Parce qu'en fait, c'est, le truc c'est que maintenant tu payes sur Vercel tout le temps en fait. Ouais, c'est pas l'utilisation. Enfin, certes, ouais, bon, bref. Mais oui, après en remote aussi ça marche très bien. Mais je voulais dire en fait que Vercel avait refait aussi par la même occasion, puisque du coup, je rappelle que Vercel, ils ont fait le SDK, AI SDK, ils ont sorti une nouvelle version il n'y a pas longtemps. Là, on voit le Eve, on voit aussi le. Ah, c'est un gateway, AI gateway aussi, donc tu peux consommer des modèles via leur gateway.
Des providers, ouais.
Des providers, donc voilà. Donc du coup, ils ont refait leur site et ils ont complètement changé leur baseline, en fait. Donc maintenant, c'est plutôt une plateforme pour agents, etc. Donc si tu vas sur la home, tu verras, mais voilà, ils ont annoncé ça il y a une semaine ou 10 jours, je ne sais plus, comme quoi ils refaisaient tout le design du site. Et le site, en fait, Vercel est devenu officiellement un truc plus orienté agent, voilà.
Ah oui, t'es connecté. Ok, ouais, je suis connecté. On regardera ça plus tard. Ouais. Mais ça marche. Allez, on bascule sur un autre. On reste dans l'écosystème IA, évidemment, avec l'arrivée d'un projet open source qui s'appelle Fugu. Fugu. Par contre, tu viens de me dire qu'il n'était pas dispo chez nous.
Ouais, il est pas dispo en Europe, ouais. Effectivement. Je sais plus pourquoi il est pas dispo en Europe, mais Fugu, en fait, ils ont sorti un modèle qui est assez particulier. Donc, je rappelle, en ce moment, c'est un petit peu, c'est un peu compliqué au niveau. On parle beaucoup de souveraineté IA, tout ça, et les Américains, ils font un peu n'importe quoi. Donc, du coup, ça donne le signal à tous les autres pays qu'il faut vraiment ne plus être dépendant de ces gens-là. Oui. D'ailleurs, ce matin, ils ont annoncé que Fable revenait. Dispo, etc. Bon, bref. Enfin, ça fait. Bon, bref. Et du coup, Sakana Fugu, en fait, c'est un modèle qui est un modèle assez particulier. C'est un modèle qui est orchestrateur, en fait. C'est-à-dire, tu vas lui poser une question et lui, il va sélectionner d'autres modèles pour répondre à ta requête. Et donc, il va sélectionner le modèle qui correspond le mieux à ta requête. En gros, c'est vraiment un orchestrateur. Mais ça reste un modèle que tu utilises comme un modèle. Donc, c'est marrant. Le concept, il est un peu particulier. Et voilà. Donc, c'est japonais.
C'est un sur-modèle. Excellent.
C'est un sur-modèle, voilà. Voilà.
Et pour le coup, est-ce que tu as essayé via un VPN japonais se connecter?
Non, j'ai pas essayé parce qu'en plus, c'est pas forcément open source et c'est pas forcément gratuit. Donc, non, je l'ai pas essayé. C'est cool d'avoir quelque chose qui vient déjà du Japon et puis qui change un peu de ce qu'on trouve ailleurs aussi.
Bien sûr. Bien sûr. Allez, on reste dans l'univers open source avec des modèles ou des surmodèles ou des fusions de modèles. Là, c'est Ornith 1.0 qui se veut en fait un modèle dédié pour le développement agentique. Autant dire, ouais. Là, on est tous les deux à tendre l'oreille fortement, plus. En fait, c'est un peu dans le même délire. C'est un surmodèle où ils se sont basés sur... j'arrive pas à retrouver... Ah oui, Gemma 4 et Quen 3.5.
Ouais.
Et ils ont sorti 4 versions de modèles, un 9B dense, un 31B dense, un 35B MOE, c'est Mixture of Expert, et un autre de 397B. Autant dire, là, ouais. il faut quand même une petite machine digne de ce nom pour faire tourner ça. Ouais. Par contre, assez intéressant à mon avis sur du dev agentique local.
Ouais, déjà, oui, parce que le 9B, tu peux déjà le faire tourner sur ta machine. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, hein, le 9B, tu peux le faire tourner sur ta machine de dev, enfin de travail, normalement. Et après, bah, les autres, ça dépend ce que tu vas avoir, tout ça, ou tu peux le faire tourner en local sur un serveur, des trucs comme ça. Donc, ouais, les quatre modèles qui sont intéressants, qui sont spécialisés dans le code. On est un peu sur du, tu vois, quand tu prends des modèles comme ça, on se rapproche de Composer 2.5, tu vois. C'est vraiment des modèles qu'on a pris et qu'on a spécialisés dans le code. Du coup, ça donne des bons trucs. Et surtout, au niveau des benchmarks, bah, ce qu'il raconte, c'est qu'il se rapproche des meilleurs modèles, voire même il les dépasse sur certains trucs. Donc, on est quand même sur des modèles très performants, surtout sur le gros.
Est-ce que ça les surpasse ? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une tendance où, on va dire, les modèles open source sont en train vraiment de combler le gap. En fait, sur les modèles fermés, quoi. Donc, les modèles fermés qui coûtent très, très, très cher, qui justifient aussi un prix de token très, très élevé, on se rend compte, en fait, que le gap est en train de se réduire fortement. Et donc, est-ce que le marché, en fait, va se cantonner à ça ? Juste, OK, je vous donne accès au modèle parce qu'il est vachement plus malin. On se rend compte que les modèles open source sont en train de bien, bien rattraper. Donc, à mon avis, je serais pas surpris, en tout cas, que le move business bascule sur de l'inférence pure.
Ouais, de toute façon, c'est clair. Les modèles open white sont en train de combler le gap. Les Chinois sont tellement... ils n'arrêtent pas d'en sortir, en fait. C'est juste fou. C'est la guerre. Et en fait, c'est marrant comme enfin, on a déjà parlé plusieurs fois, mais le calendrier fait en sorte qu'il donne du poids au modèle open source. C'est marrant le jeu de mots, le poids. Enfin, bref. Parce que interdire les modèles d'Anthropic, là, après, le modèle de OpenAI 5.6, il a été aussi restreint à quelques sociétés, etc. Alors, soi-disant, parce que les Chinois ils distilleraient les modèles dès qu'ils sortiraient, etc. Bon, bref, toutes ces histoires, on ne va pas en parler, mais. Du coup, ça donne le projecteur sur les modèles open source qui sont de plus en plus performants, qui arrivent à des benchmarks qui sont quasiment équivalents ou voire juste en dessous des modèles fermés des gros majors. Donc c'est oui, on a des modèles. Et là, Ornith, en fait, c'est une boîte américaine en plus. Hein. Donc c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est le premier modèle, c'est les premiers modèles américains open source qui sont performants, quoi. Donc parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'en avoir des modèles américains performants en open source. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce qu'on a des modèles. En fait, ça donne de la concurrence pour ces sociétés qui ont des modèles fermés et du coup ça nous donne aussi un espoir pour pouvoir se passer en fait de ces modèles, cette dépendance en fait américaine. C'est ça qui est super intéressant.
Moi j'ai vraiment hâte, j'ai pas encore eu le temps de tester ça sur du local, mais j'ai vraiment envie de voir jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qui est viable déjà ou pas, quoi.
Alors pour être totalement, alors après faut rester pragmatique. En fait, tout ce qui est, je rappelle, pour l'instant on a des, parce que quand tu veux utiliser le 5.2 là de GLM, il est très très bon. Moi je l'ai utilisé, il y a plein de gens qui testent tout ça. Il faut savoir quand même que c'est soit tu t'abonnes à un forfait chez ZAI. Donc chinois, donc tu sais pas, enfin, voilà, tu sais pas ce qu'il y a derrière, etc. c'est pas forcément RGPD et tout ça, machin. Donc ça, chacun fait son choix. Soit tu l'utilises en API sur des providers qui sont européens, etc. Donc le problème, c'est que l'utiliser en API en provider européen, oui, il est moins cher que Claude, etc. Mais ça peut vite coûter de l'argent. Donc c'est pas, alors oui, les modèles open source c'est cool tout ça machin, mais pour l'instant avec ces forfaits subventionnés qu'on a pour des providers, ça reste quand même plus cher d'utiliser des modèles open source quand ils sont pas open, qui sont pas local en fait. Si c'est vraiment de l'API que tu consommes, ça peut quand même coûter de l'argent. Il faut être vraiment honnête avec ça. Pour l'instant, on n'a pas de solution de payer 20 balles ou 30 balles ou 40 balles chez un provider pour pouvoir utiliser Ornit ou GLM 5.2, etc. Ça reste de la consommation API.
Ouais. Mais moi, je suis curieux de tester en agentique local.
Oui, après en local, voilà. Ouais. Tu vois, mais il faut un ordi.
Il faut un peu une petite machine, quoi. Mais en tout cas, ouais, je vais tester ça et on pourra en reparler plus tard.
Bah, ouais, de toute façon, c'est ça. Après, c'est on a un épisode sur l'IA locale qui a bien fonctionné, qui fonctionne encore bien. Donc ça intéresse beaucoup de gens, l'IA locale. Mais je rappelle quand même qu'il faut un ordinateur assez puissant pour faire tourner un modèle, que ce soit un nombre de tokens par seconde qui soit quand même correct, etc. Donc quand t'as plein d'outils qui sont déjà ouverts, que t'as Cursor, etc., Chrome, tout ce que tu veux, faire tourner un modèle en plus en local, il faut quand même avoir une bonne machine. Donc voilà,
clairement.
Clairement. Pas rêver sur l'IA locale, c'est super, mais il faut avoir de la machine.
Vite fait, bien dit. Allez, on reste sur de l'IA, par contre, avec un modèle français de OCR en version 4 de chez Mistral. OCR, on se rappelle, c'est clairement, on lui donne à manger une image, il va nous sortir du texte ou du JSON ou des choses comme ça. Et là, c'est la dernière, c'est State of the Art de chez Mistral.
C'est ça, c'est le nouveau modèle qui permet donc via, tu envoies une photo, un PDF, un truc scanné, ce que tu veux, et il est capable de te... En fait, il fait des sortes de box, des zones où il y a des textes, tout ça, et après, il est capable d'extraire le texte et de le sortir formaté en JSON, des trucs comme ça. Donc, des modèles OCR, il y en a pas mal. Donc là, celui-là, il est sorti, il vient de sortir chez Mistral, c'est la version 4. Il est consommable en API. Je ne sais plus s'il est vraiment open source. J'arrive pas à trouver. Mais je pense normalement, il est open source, mais donc à voir. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de modèles OCR et c'est super pratique si tu veux digitaliser des documents, des notes de frais, des factures, enfin tout plein de trucs. Il est capable de sortir le texte assez efficacement. Et on peut le tester sur le playground. Si vous avez un compte Mistral, il y a le playground et tu peux tester en envoyant un document et il va te sortir tout le texte, etc. C'est super rapide en plus.
Impressionnant. Et trop ouais, bien. Français, ça marche les gars. Français, ça marche. Autre système, par contre, lui, pas français, sur du crawl pour aller en fait faire de la recherche, du scrapping de données. Firecrawl, en fait, est une solution qui marche plutôt bien. C'est un agent qui va aller récupérer toutes les infos. Par contre, il fallait mettre sa clé API, il fallait créer son compte. Et là, en fait, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Keyless.
Ouais, bah, tu peux l'utiliser sans mettre d'API key. Donc, à mon avis, je pense qu'ils ont fait ça pour donner la possibilité aux agents de l'utiliser, en fait, certainement, parce qu'on a tendance à tous utiliser Brave Search, je crois, pour aller chercher des recherches au niveau des agents.
Ouais.
Et du coup, je pense qu'ils se sont dit, bah, il faudrait peut-être qu'on fasse un truc pour qu'on utilise aussi notre service. Voilà. Donc, ils sont assez généreux. En fait, je crois que c'est 1000 recherches par mois, je crois. Un truc comme
c'est
ça.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
1000 recherches gratuites par mois.
Et en fait, c'était déjà le cas avant. On avait déjà 1000 recherches par mois, mais sauf qu'il fallait créer un compte, faire une API key, tout ça, machin. Mm-hmm. Et du coup, bah, ils ont créé. Voilà. Maintenant, tu peux faire directement l'API sans API key. Voilà.
C'est
généreux.
C'est plutôt sympa. Et ce qui est intéressant aussi avec ce système-là, c'est qu'en fait, il y a aussi cette notion de proxy où en fait, si tu fais 2-3 fois cette requête, tu ne vas pas venir de la même IP. Et donc, tu as tout ce système de proxy qui est géré pour toi, que tu n'as pas à gérer si tu le fais en local ou si tu le fais... voilà. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité qui est plutôt intéressante et qui vient enrichir en fait tout cet écosystème de scrapping, de search, d'extract agentique, c'est que tu as aussi cette notion de proxy, quoi. Donc ça, c'est cool.
Ouais, je rappelle que ils ont aussi une version open source que tu peux auto-héberger.
Oui, par contre, ça sera à toi de gérer ces proxys.
Ouais, après, voilà, c'est plus compliqué.
C'est clair. Allez, on rebascule sur le côté français de l'IA avec une solution qui s'appelle Lighton. Qu'est-ce que ça nous promet, Lighton ?
Alors, c'est pas un nouveau truc, hein, mais je voulais en parler parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Américains et j'ai envie qu'on parle quand même de services français qui existent et qui sont efficaces. Lighton, c'est une boîte française qui propose en fait de pouvoir créer un RAG assez facilement. En gros, ils vont gérer toute ta base documentaire, donc la partie... tu vas envoyer des documents et eux, derrière, ils vont gérer la vectorisation, la base de données. Et du coup, toi, tu te retrouves qu'à faire à appeler l'API pour trouver des documents, en fait. Donc, du coup, ils gèrent toute la partie chiante, en gros, du RAG, et d'une manière efficace. Et du coup, toi, tu n'as plus qu'à consommer, en fait, des recherches et à payer. Donc, c'est pas mal. Et ils utilisent OCR, évidemment. Donc des modèles OCR comme celui de Mistral qu'on a parlé juste avant, donc qui permet d'envoyer justement des documents, etc. Ils font même dans les exemples quand tu crées ton compte tout ça, ils t'as même un truc, c'est écrit à la main, mais tu sais, mais mal écrit en plus, tu vois. Et le truc est quand même capable de reconnaître le texte et tout, donc c'est vraiment efficace. Donc voilà. Donc c'est Lighton, c'est français et ça marche plutôt pas mal. Si vous voulez faire un RAG rapidement, bah ça marche pour les sociétés tout ça.
Top, top. Autre solution française aussi, je crois, LinkUp.
Ouais. Bah, LinkUp, c'est un peu l'équivalent de
Firefall.
Ok. Un peu l'équivalent. Donc, tu vas lui donner soit tu veux faire des recherches, soit tu vas lui mettre une URL, tout ça. Il va t'extraire les choses de ses pages web et donc, voilà, te donner en format JSON, etc. Et tu peux lui donner enfin, il y a plein de commandes, tu vois, donc fetch, search et research. Donc, et voilà, et tout ça. Et ça, c'est 100% français, ils sont à Paris et voilà. Donc, on a aussi des acteurs français dans l'IA qui sont capables de sortir des bons produits et qui sont là, qui existent. Voilà.
À tester, ça, à tester.
Mais carrément.
Et autre solution où là on change totalement d'univers, ça s'appelle Proxae. L'idée en fait, c'est d'utiliser la blockchain Bitcoin avec son neurodatage pour venir valider ou en tout cas certifier son idée, c'est ça ?
Ouais, en fait, si tu as une idée, tu as un document texte, je sais pas, ça peut être une recette de cuisine de grand-mère, voilà, que chacun se passe de génération en génération, enfin tout ce que tu veux. En gros, tu vas télécharger et ce truc va te rajouter, alors toi tu connais mieux que moi, un timestamp dans la blockchain. Dans la blockchain Bitcoin. Et du coup, ça certifie qu'à telle date, tu avais mis ce document, voilà, etc. Donc, on ne peut pas te dire que non, c'est telle date, ou j'ai eu l'idée avant toi, etc. Non, là, tu es inscrit et ça ne bouge plus. Quoi. Okay. Toi, tu connais mieux que moi la
blockchain. Ouais, c'est vraiment un système d'eurodatage. Quoi. C'est contrairement à une blockchain... de proof of work, où là, en fait, on va être obligé de faire un effort de calcul pour valider et authentifier la transaction ou l'action. Là, pour le coup, ça utilise un timestamp, donc c'est l'eurodatage spécifique, et on vient récupérer un hash et on vient coupler le hash du fichier, le hash en fait de l'eurodatage et le hash du bloc Bitcoin, et impossible à bouger, et donc en fait on vient estampiller et en tout cas mettre un eurodatage immuable. Donc c'est plutôt malin et plutôt intéressant pour venir garantir en fait un fichier basé dans le temps, quoi. Donc c'est aussi un moyen de mettre une traçabilité hyper clean pour pas cher. Donc
ça utilise c'est quoi déjà le truc,
Open timestamp.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et donc, moi, je trouve ça hyper malin. Et en fait, je pense... Alors là, on sort un peu, on va repartir sur des choses un peu plus, non pas ésotériques, mais en fait, la blockchain, de manière générale, n'a pas réussi à percer dans le grand public. Personne n'a trouvé l'usage propre. Elle a été complètement submergée par l'IA, qui en fait a réussi à atteindre un niveau de pénétration dans le marché grand public beaucoup plus rapide. Donc, les entreprises suivent et tout ça. Néanmoins, la technologie blockchain reste quand même intéressante, même s'il y a des gens qui vont s'insurger et qui vont dire « non, c'est du bullshit » et machin. Aujourd'hui, en fait, les cas d'usage n'ont été que sur de la spéculation pure. Mais grâce à ce type de système, en fait, de solution, en fait, on se rend compte de l'usage réel et potentiel, en fait, de cette techno, en fait, et de s'appuyer sur ce socle technologique qui commence déjà à être approuvé dans le temps. Parce qu'une technologie qui n'est pas morte au bout de 10, 15 ans, 20 ans, ça veut dire que ça commence à avoir un peu de viabilité quand même. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver en fait des usages hyper, hyper intéressants. Et là, petit moment boule de cristal, mais je pense que la blockchain va revenir et cette histoire de token en fait, va revenir grâce à l'IA. Parce que en fait, les agents aujourd'hui, on n'est pas prêt à leur donner de la carte bleue. Et donc, à mon sens, demain, ça sera beaucoup plus simple à un agent de payer via des tokens. Des tokens, non pas des tokens des mots, mais en fait une cryptocurrency ou un truc comme ça, où en fait, comme un ado, en fait, on créditera mon agent et mon agent a tant de crédits et il peut le dépenser sur tel site, tel site, tel site. Et là, en fait, la technologie blockchain sera super intéressante pour valider la transaction, beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, moins d'interactions humaines. Mais ça, c'est mon pronostic, c'est mon côté boule de cristal. Je sais pas.
Non, mais je pense que oui, non, mais je pense que t'as raison. De toute façon, mais on avait déjà parlé d'ailleurs une fois, je sais plus, mais ouais, non, mais t'as raison. Je pense que je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas prêt à donner ma carte bleue à un agent, ça c'est clair, parce que c'est au niveau sécurité, c'est encore loin d'être fiable, les promptes d'injection et compagnie. Donc, non. Je donnerai pas ma carte bleue, donc oui, effectivement, c'est peut-être le moyen de lui donner accès pour payer des choses. Donc, ouais. Après, moi, j'y connais rien en blockchain, donc clairement. Par contre, voilà, c'était intéressant de parler de Proxae parce que je savais pas qu'il y avait différents layers, tout ça. Tu vois, Bitcoin, pour moi, c'est la monnaie, la crypto-monnaie. Et je savais pas qu'on avait différents layers où on pouvait inscrire des choses soi-même, etc. Donc, c'est pas mal, en fait. Ça donne plein d'idées aussi pour d'autres trucs, éventuellement.
Complètement. C'est pas mal. Complètement. Écoute, Patrick, je te propose qu'on en reste là pour cet épisode. Ouais. Dites-nous ce que vous pensez sur l'évolution de l'IA et blockchain, tout ça. Mettez-les dans les commentaires. Comme d'habitude, un petit pouce, un petit like, un petit partage, ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.
À plus, ciao.